Bonjour à tous, merci de me faire l'honneur d'assister à ma session cet après-midi. Je suis très flatté par une présence aussi nombreuse, de bien vous le dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michel Rousseau. Je suis responsable de tout ce qui est UX, donc expérience utilisateur, interface utilisateur et design au sein de Microsoft France, dans la division DPE. Donc DPE, c'est pour division, plateforme et écosystème. Donc on administre un certain nombre de partenaires avec qui on met en relation des clients, de manière à ce que tout le monde puisse travailler sur nos plateformes et nos technologies. Ça vous semble clair jusqu'à là ? J'espère, parce que ça va se compliquer un petit peu par la suite. Donc le thème de cette session, c'est on va parler un petit peu d'identité et comment on fait transpirer l'identité. Quels sont les points d'entrée par lesquels vous arriverez à faire des applications un petit peu plus sympas, sans avoir la prétention de faire des gens, des designers ou des cadors en colorimétrie et autres. L'idée, c'est de vous donner les points d'entrée, les différents pointeurs, tout comme je l'ai fait ce matin en plénière. Qui était à la session plénière ce matin ? Quel succès ! Waouh ! Impressionnant. Donc, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va reprendre un petit peu, point par point, ce que l'on a vu ce matin. Hein, vous vous souvenez, les quatre grands points ? Vous ne dormiez pas encore à ce moment-là. Non, on n'avait pas encore problème de réseau à ce moment-là. C'était sympa. L'idée, c'est de reprendre donc ces différents grands points, de les traiter d'une manière un petit peu plus approfondie, et puis de voir comment moi je me débrouille pour faire des applications. Quelles sont un peu mes recettes de cuisine. Et comme je suis quelqu'un de profondément fidèle à la marque que je représente, on va essayer de faire ça avec les outils comme ce matin, dans Blend pour Visual Studio, qui offre le double avantage, c'est un d'être à l'intérieur de votre modèle de développement, donc qui est réutilisable par vos développeurs, une fois qu'ils ont fini de mâcher le boulot. Et puis deuxièmement, de permettre effectivement à des designers un petit peu aware, un petit peu open sur le monde du développement, de finalement se faire une raison et de se mettre au contrôle. Voilà un petit peu le truc. Hop, continuons. Donc voilà, la slide un petit peu chiante que personne ne lit. Commencer directement à les buts. Comprendre les composantes de l'identité dans une application. Comment on implémente un design Windows 8.1, si possible, dans Blend, avec du XAML. Et oui, parce que on est multicompétences. Ce matin, vous avez vu en plénière que je faisais plutôt du CSS 3 HTML de manière bien crade, pour le coup. Je le sais parce que certains ont retweeté des trucs par-dessus. On s'est rendu compte. Bon, c'était un peu voulu en même temps, c'était fait exprès. Le designer n'est pas un développeur et il ne le fait pas de manière vraiment optimisée. Donc c'est un peu volontaire. Donc comment on fait ça ? Dans du XAML cette fois-ci, on va tourner de l'autre côté de la technologie. Et puis comment orienter un dev ou une agence vers les bonnes ressources qui lui permettront d'avancer plus vite sur le design d'une appli. Ça vous va ?
Ouais.
L'agenda, tout ce qu'on veut à peu près évoquer. Travailler une charte, est-ce que ça fait mal ? Et le cas échéant, est-ce que ça fait mal où ? L'identité de marque, faites-le vous-même, à partir de quatre grands points, tout comme ce matin, pour ceux qui étaient effectivement à fond. Comment on donne du style à l'application ? Les différentes variantes visuelles, ce genre de choses. Et puis enfin, on regardera un petit peu des exemples de la vie réelle, ce que moi je considère comme des applications remarquables, des applications, ce qu'on appelle des applications grandioses. Pourquoi elles le sont, comment elles le sont, jusqu'où on va dans les guidelines dont maintenant ça fait 2 ans on vous rebâche les oreilles. Je pense que les guidelines Microsoft, vous commencez peut-être à les avoir un petit peu là. Comment on va un petit peu plus loin que ces guidelines éventuellement. Great British Chef, par exemple, est une application du Windows Store qui, à mon sens, est une application remarquable et grandiose. Vous la connaissez ? Vous l'avez déjà téléchargée ? Qui a Windows 8 dans la salle ? Ouais, quand même. Ça fait une belle proportion. Great British Chef tire sa substantifique moelle, je dirais, du fait que il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de layouts qui viennent se croiser, il y a énormément d'animations. Donc ça donne une identité un petit peu particulière à l'application. Et finalement, faire une application... reviens pas là, voilà, celle d'après. Voilà, t'es gentil. Une application grandiose, qu'est-ce que c'est ? Comment on peut la définir ? Déjà, généralement, c'est un concept grandiose. On n'invente pas Facebook comme ça tout à fait par hasard. On n'invente pas des applications comme, là je sors d'une session où on félicitait les plus belles applications qui sont sorties sur nos plateformes cette année. Tous ceux qui ont gagné avaient un concept particulier. Les gens qui ont fait le jeu Burger, c'est un jeu qui est tout con à la base, mais au niveau du concept, c'est génial et c'est super bien réalisé. Super bien réalisé dit une application qui est stable et qui répond, qui vous donne du feedback. Vous savez tous ce que c'est que le feedback, hein, le fait que quand je clique à un endroit, ça fasse prout-prout à un autre, c'est-à-dire ça me renseigne sur le fait que j'ai effectivement créé quelque chose, ou alors ça me valorise, ah tiens, j'ai fait ça, ouais, génial, ça me fait ça en retour, ah ouais, je suis vraiment trop de la balle, j'ai trop compris comment ça fonctionnait. Donc ça fait partie effectivement de la valorisation personnelle, et ainsi de suite, ça fait partie de l'expérience, le fait que bah, vous allez rendre votre audience plus intelligente qu'elle ne pense l'être elle-même. Ça veut dire aussi que forcément, vous allez la guider dans l'application, c'est-à-dire que vous allez mettre au point une certaine forme d'ergonomie qui va lui permettre de trouver son chemin intuitivement, naturellement si possible, hein, les fameuses interfaces naturelles, sans qu'il s'en rende compte, donc le rendre encore une fois plus malin que ce qu'il pense être. Donc ça veut dire une application bien designée donc, au niveau UX, oui, alors ça c'est l'ergonomie et c'est tout ce qui est relié au cognitif. Et puis, bah, une application bien designée au niveau UI, donc interface utilisateur, quelque chose qui ne soit pas trop dégueulasse non plus. Hein, tant qu'à faire, autant mettre en place des choses qui sont un petit peu sympas. On va voir comment on fait ça. Et puis enfin, une application qui a du chien, du branding, nom de Dieu, de l'identité. Comment vous faites transpirer une identité particulière dans l'application ? C'est pas inclusif, hein, tous ces domaines. Vous pouvez très bien réaliser une appli grandiose. Le seul problème, c'est qu'après votre appli grandiose, il faut la vendre. Alors vous pouvez faire une application qui est bien designée, avec des petites fleurs, des machins super mignons. Mais si l'expérience utilisateur est toute pourrie derrière, vous ne la vendrez pas. Donc le mieux, c'est d'avoir d'équilibrer un petit peu tout ça et puis d'arriver à en faire quelque chose qui tienne le parquet de manière cohérente en équilibrant un peu les charges. Mais, oui, comment je fais pour donner une identité à mon application ? Grande question que se posent souvent mes copains les développeurs quand ils viennent me voir, y compris chez DPE. Ils disent « Ouh là là, ce que j'ai fait, c'est super fonctionnel, mais c'est tout moche. » Donc comment j'arrive à donner un petit peu de sens d'identité à cette appli ? Et pour ça, on a un exemple. L'application Europe 1, qui a été faite en collaboration avec les équipes DPE et je crois que c'était MC Next, la société qui l'a réalisée. Assez intéressant comme exemple parce que ces gens-là ne sont pas tombés de la dernière pluie, les gens de chez Europe 1. Ils ont un vrai, vrai bureau qui s'occupe de tout ce qui est expérience numérique. Ce qui n'est pas encore le cas partout. Hein. Si vous avez un petit peu de chance, vous tombez sur des gens qui sont complètement newbies dans le truc et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais eux, non, on ne leur raconte pas facilement à Europe 1. Et pour le coup, ils avaient une identité assez prégnante du fait que ils étaient déjà sortis sur des plateformes Android, ils étaient déjà sortis sur des plateformes Apple, que ça soit dans des petits formats ou dans des grands formats. Ils avaient déjà un petit peu une vraie connaissance de ce que c'est que le responsive design. Là aussi, il n'était pas question de leur dire « votre application elle ne se lira qu'en vertical ou qu'en horizontal ». Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le coup, ça n'a pas été facile de la leur jouer à l'envers. Et pour ça, il a fallu adapter un petit peu ce qu'ils avaient déployé pour toutes les autres plateformes, y compris sur la nôtre. Donc ça a donné plusieurs exemples. Et pour le coup, on s'est un petit peu, ou du moins MC Next, s'est un petit peu penché sur la charte graphique, sachant que globalement, moi, je leur ai demandé la charte graphique, ils n'en avaient pas à me fournir comme ça, parce que le numérique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore aussi strict, et du moins pris de manière aussi régulière que peut l'être la charte print. Donc en l'occurrence, ça tournait autour essentiellement d'une couleur et de l'assemblage de la forme mi-ronde, mi-carré du logo en haut, et puis cette espèce de vague bleu clair dessus. Globalement. Donc ils voulaient quand même quelque chose d'aéré, ils voulaient tirer parti des guidelines, et puis voilà ce que ça a donné. En deuxième exemple, j'ai effectivement cette slide, qui est un petit peu plus compliquée à lire au niveau du visuel, parce qu'ils tirent parti du paradigme Microsoft, qui veut qu'on ait une barre d'action en bas, qui permet de faire quelque chose, de lancer des actions particulières par rapport au contenu qui est au-dessus. Donc là, je sais que j'ai une application, enfin j'ai un flux audio qui est en train de se jouer. Je peux très bien accéder aux autres flux par le bouton replay. Je peux épingler éventuellement ce flux, mais rien ne m'empêche d'accéder à d'autres flux dans le contenu que je suis en train de lire. Au-dessus aussi, on a la barre de navigation qui permet effectivement de court-circuiter rapidement à l'intérieur d'une section et de revenir soit au hub central, donc à la partie centrale de l'application, ou soit d'aller naviguer dans une autre fenêtre. Donc ça c'est très bien parce que ça tire parti à la fois de l'ambiance un petit peu carrée du template de base, ou en faisant des call to action par des boutons ronds. Et pourquoi le bouton rond? Parce que c'est facile de s'identifier le pouce par rapport à la forme. Bon, le seul problème, c'est que la plupart du temps, les développeurs n'ont pas accès à cette charte graphique, soit parce qu'elle n'existe pas, soit parce que les gens ne veulent pas communiquer dessus, parce que pour tout un tas de raisons, soit parce qu'ils ont super confiance dans le travail délivré sur les nouvelles plateformes comme le sont celles de Microsoft, que mon Dieu, ça va tout déchirer, ça va être trop bien. Oui, j'y crois. Et donc globalement, il vous faut vous repalucher la charte à la main. Et voilà sur quoi il faut commencer à partir. Donc une charte, essentiellement, c'est un logo, un set de couleurs, une police bien marquée, et puis un fond d'écran qui va vous permettre d'enjoliver un petit peu tout ça, de faire tenir votre contenu. C'est sympa de prendre les photos, je ne suis pas contre. Et puis ça ne m'éblouit pas encore assez d'ici avec le projet. Mais elles seront disponibles, les slides. Ne vous inquiétez pas, vous les aurez à un moment donné. Le seul petit souci, c'est que par défaut, les outils de conception, par défaut, génèrent des templates qui ressemblent à ça. Et ça, c'est dans le pire des cas, donc des choses très très carrées qui sont absolument pas identitaires. On peut avoir aussi ce genre de choses, le nouveau contrôle d'organisation du layout qu'on appelle un concentrateur. Alors j'ai décidé de prendre le parti de faire un petit peu d'auto-célébration et de dire on va faire la compagnie qui me représente, la Mitch Airways, et puis là-dessus on va essayer de créer un petit peu en partant de ces quatre grands points, donc le logo, la couleur et ainsi de suite, vous l'avez vu, d'essayer de créer une application qui tienne un petit peu le parquet, tout comme on l'a fait ce matin en 7 minutes. Alors, première chose, définir ce que va faire l'appli. Donc globalement, je me suis dit, si je devais faire une application comme ça, ça devrait suivre un vol. Assurer un petit peu de contenu institutionnel, savoir de quoi ça parle, qu'est-ce que j'ai acheté comme avion, qu'est-ce que je vends, tout ça. Et puis donner quelques infos business. Voilà pour le background de l'appli, qui, ma foi, est à peu près celui de 80% des applications du style. Plutôt que démo, le template data et le champ fonctionnel. Donc là, c'est pour ça que je vais m'asseoir, ce qui est chose assez rare dans mes démos, mais je vais tenter de le faire et de rester assis pendant le reste du temps. Étape numéro 1, vous l'avez vu, il faut trouver the bonne couleur ou le bon assemblage de couleurs qui va définir votre charte. Alors, il y a des fois, c'est facile. Il y a des fois, c'est pas facile de composer avec une charte. J'en veux pour preuve des applications comme Diormag, notamment sur notre plateforme, qui jongle allègrement avec deux couleurs, le noir et le blanc. Va jouer avec ça quand tu es designer. Waouh, pas facile, facile. Bon, heureusement, il y a quand même quelques raisons d'espérer qu'on puisse trouver de bonnes couleurs, notamment par le biais de sites comme Couleur. Est-ce que vous connaissez le site Couleur? Non, vous ne connaissez pas. Je vais vous le montrer. C'est juste une petite tuerie. On va voir ça. Donc déjà, pour vous expliquer un peu, c'est un site qui est fait par mes amis d'Adobe, avec qui j'ai d'excellentes relations, merci. C'est un jeu de mots, en fait. Vous voyez comment ça s'écrit? Ça s'appelle Couleur. Et en fait, c'est parce que les Américains ne savaient absolument pas à quoi ça donnait en français, donc ils se sont dit « Oui, as we say in French, couleur ». Hop, ça a donné Couleur en français. Ils sont quand même bien ces Ricains, moi je les aime bien, ils ont un sens de l'humour très très affûté. Tiens, je vais même revenir sur la salle d'avant parce que j'avais pas fini. Et je vais revenir sur mon petit bureau, je vais pas arrêter de faire des transitions comme ça pourries, c'est ça qui est bon. Alors Couleur, ça ressemble à ça dans la vraie vie quand c'est lancé. Et vous voyez que vous avez tout un ensemble de choses, un outil complet qui va vous permettre de générer des sets de couleurs. Alors par exemple, là on est dans un type de couleur analogue. Analogue, c'est-à-dire que je prends un certain écart sur la roue chromatique et puis j'essaie de jouer avec. Et j'ai une couleur de base qui est confié ici un petit taquet, vous voyez peut-être, hein, le petit indice là, qui me permet de savoir que bah, ça c'est la couleur principale, elle est au centre de mes préoccupations ici, et puis il me donne surtout le code hexadécimal, hein, ce qui est quand même hachement pratique. Mais le code analogue, même si c'est très bien hein, au niveau de la dispersion des couleurs, ça donne quelque chose d'assez homogène, parfois un petit peu fadasse quand même, il faut bien le reconnaître, bah, on peut le changer, on peut aller sur du monochromatique, donc des valeurs qui sont sur le même alignement dans la roue colorimétrique, et vous voyez que si j'en change une, et ben toutes les autres suivent, hein, puisqu'il y a une règle qui définit que, bah, ma foi, les couleurs doivent tenir sur le même radiant. Il y a les triades qui prennent des angles à 120 degrés autour de la roue chromatique, hein, et ainsi de suite, des complémentaires qui vont vous donner des résultats qui vont vous éclater la rétine, hein, ou composés, ou alors des shades qui sont certainement les plus élégantes, mais souvent aussi les plus fadasses. Donc voilà un petit peu comment vous allez pouvoir créer des sets de couleurs. Vous avez même la possibilité, si je me rappelle bien, d'aller explorer un petit peu ce qui se fait et de voir les thèmes qui ont été faits par la communauté pour savoir quels sont les plus trendy, ceux qui sont les plus calmes, ceux qui sont les plus beaux, ceux qui... Bon, bref. Donc là, par exemple, moi, je m'étais dit, bah, je vais partir sur un certain set de couleurs et je vais continuer avec ça, parce que ça définit bien l'identité de marque de ma marque, Mitch Airways. Je vais y arriver. Donc après, une fois qu'on a ces couleurs, bah, il faut les transformer en brush HTML. HTML, ça y est. Encore perdu dans le truc de ce matin, en brush XAML, pardon. Vous savez tout ce qu'est le XAML ? Ouais, là déjà, ça fait moins les malins déjà. Hein. Donc vous avez le HTML hein, et son petit copain, le CSS3, qui définit graphiquement ce que fait le HTML. Hein. Et ben, le XAML, c'est un langage de balise qui ressemble à peu de choses près, une espèce de XML qui va décrire dans une page bah, à la fois l'organisation de la page et puis à la fois son aspect graphique. Et pour ça, bah, on a un super éditeur qui s'appelle Blend pour Visual Studio, qui est ici ouvert. Dès que j'aurai caché l'autre, qui est ici ouvert. Donc là, avec un template de base, hein, on va partir de ça et puis on va essayer de voir comment on fait. Vous voyez qu'on n'a pas du tout un explorateur de DOM comme on pourrait l'avoir quand on est en HTML. On a plutôt ici une notion de contrôle qui sont embriqués les uns dans les autres, dont chacun hérite. Hein. Il y en a qui vont hériter de certaines parties, d'autres qui vont hériter d'autres, mais globalement, c'est lié tout ça par une notion d'héritage entre les différents blocs, notamment pour les écartements et ainsi de suite. Bon, une fois que j'ai injecté mes data là-dedans, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir se poser la question de dire bah, comment je commence à rentrer le métier dans mon application. Et pour ça, bah, je vais quitter un petit peu le template de base, et puis je vais ouvrir un projet existant, ici. Et puis je vais venir allègrement et sans peur, voilà, et hop, je me fais tacler. Ça risque d'être très très long cette session en fait. Pourquoi il me dit que j'ai pas 1024 par 768, pourtant c'est le bon truc. On va sortir de là et puis on va se le refaire à la main ici. Effectivement, je ne suis pas dans la bonne résolution. Voilà, je conserve les modifications et je fais OK. Et je réouvre mon blend sur le projet une fois que j'ai intégré les datas et il devrait se trouver ici et si c'est pas trop pourri, voilà, ça s'ouvre. Donc là vous voyez que déjà il s'est passé 2-3 choses. On est passé d'un template classique à quelque chose d'un petit peu amélioré. Alors comment j'ai fait ça ? Bah, tout simplement en allant taper dans un fichier JSON, hein, comme je l'ai fait ce matin dans la version HTML. Là aussi je peux très bien aller chercher un fichier JSON qui va me permettre bah, de retaper le métier de mon application. Donc là en l'occurrence je vais l'exécuter. Je ne vais pas la tuer, hein, je veux la jouer. Je vais exécuter mon application. Donc vous voyez que l'avantage aussi de Blend pour Visual Studio, c'est que vous disposez d'un émulateur qui va vous permettre de jouer l'application sans avoir vraiment à la jouer. Et puis l'avantage de l'émulateur, c'est qu'il est tactique. Et puis il va vous permettre de jouer vraiment avec l'application, y compris parce que vous pouvez changer l'orientation de la page, et ainsi de suite. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, le bouton, hein, le vrai. Et ça vous permet de voir un peu comment ça réagit en fonction du form factor de votre appli. Fine. Là-dessus, on revient jusqu'à les arbres, voilà, si tu veux, dans le mauvais sens. Vous voyez que j'ai défini un certain nombre de choses, comme j'ai redéfini quelques catégories, j'ai commencé à changer un petit peu les images qui sont liées à certaines choses. Ça, c'est pas du travail, je dirais, de designer, c'est du travail de développeur, c'est d'injecter effectivement la data à l'intérieur du modèle template. On va plutôt s'occuper cet après-midi de ce qui, de ce qui est censé nous occuper, c'est-à-dire le design, et on va repartir effectivement de cette petite chose-là. Sachez que vous pouvez le faire quand même de plusieurs manières, hein. Vous pouvez aussi définir un certain nombre de choses dans des fichiers CS pour faire ça de manière un peu plus métier. Bien. Une fois que j'en suis là, il va falloir que j'intègre les couleurs. Alors ça, je peux le faire de plusieurs manières. Je vais vous en montrer une qui n'est pas du tout la mienne par défaut. J'ouvre la page app.xaml. La page app.xaml, vous voyez, me dit « Ah, tu ne peux pas l'ouvrir en mode design ». Effectivement, ce n'est pas une vue designée, la vue app.xaml. Ça reste du code. C'est juste pour dire, voilà, mon application dispose d'un certain nombre de choses à l'intérieur que je peux définir. Et là, je vais pouvoir commencer à balancer quelques ressources à l'intérieur. Par exemple, et pour ceux que le code ne rebute pas, je vais dire ici je veux quoi? Je veux un solid color brush, hein, un pinceau de couleur solide. Je traduis hein, pour ceux qui sont un peu faibles en anglais, excusez-moi. Dont le nom sera, je sais pas moi, bleu. Voilà, jusqu'à là tout va bien. Xname bleu, et puis dont la valeur color sera égale. C'est là que rentre en jeu mon ami couleur, dans lequel je vais pouvoir dire bah tiens, ce système là qui me plaît, mettons, hop, je vais l'éditer pour avoir les valeurs. Et puis je vais aller dire bah tiens, je vais choisir un bleu ici, et ce bleu là, je vais prendre sa valeur hexadécimale, CTRL-C. Oui, c'est là que ça se passe. Ici, un petit hashtag, CTRL-V. Je referme les parenthèses et je referme ma balise. Non, dans l'autre sens, polo, voilà. Là, à partir de là, vous avez vu, bon, c'est pas très obvious, hein, pour le coup, mais c'est assez marrant de le faire au moins une fois par soi-même pour se persuader qu'on est capable de faire du code même quand on est designer. L'avantage, c'est que ça va me permettre de faire remonter un certain nombre de choses, notamment des erreurs ici dans l'app.xaml ou dans les données. Normalement, ici, si tout s'était bien passé, j'étais censé, mais j'ai dû faire une connerie en l'écrivant, hein, certainement. Xname égale, ah oui, voilà, j'avais mis deux points au lieu de faire un égal, merci, vous pourriez suivre quand même un petit peu, c'est pas sympa de me laisser dans la merde comme ça. Et en l'occurrence, là dans les ressources, tada, est arrivée la ressource bleue. Pff, j'y suis arrivé, bordel, c'était mon défi de la journée. Donc, vous voyez que c'est finalement assez simple de rajouter des ressources que vous trouverez dans couleur à l'intérieur de votre projet. Et si vous êtes un malade patenté comme je le suis, vous allez vous faire un ensemble de couleurs que vous allez copier ici et puis que vous allez injecter dans votre projet de la même manière. Je vais remplacer ça. Et comme je suis un porc, comme je l'ai déjà prouvé ce matin, je ne vais même pas l'indenter et je vais le laisser comme ça. Ça, c'est pour faire râler mes potes, les développeurs. Voilà. Ça, c'est pour eux, cadeau. Donc, vous voyez que ici, j'ai facilement copié un certain nombre de ressources que j'ai été chopé sur le web par une application qui, somme toute, me donne des bons équilibres colorimétriques. Après, reste à moi le fait de pouvoir l'assembler à l'intérieur de mon appli, ce qui va être le cas ici quand je vais sélectionner, par exemple, ma grille de base, hein, sur quoi tout le reste est empilé. Et ça, je vais lui dire, très bien, sur la grille de base, montre-moi ses propriétés, les propriétés se trouvant de ce côté-là, et je vois que je peux déjà au niveau de la propriété background, la flaguer avec une des couleurs que j'ai récupérées. Waouh, c'est moche. C'est moche, mais ça a le mérite d'être très, très explicite pour le coup. Donc ça tiendrait qu'à moi, ça serait pas du tout comme ça que je le ferais. J'aurais plutôt tendance à dire, ouais, moi je suis quand même quelqu'un de gonflé, même avec la charte Microsoft. Moi, le flat design, c'est tout pourri, j'aime pas ça. Et j'aurais tendance à dire, fais-moi quelque chose d'un petit peu sensuel comme ça, avec vachement de dégradé. C'est bien. Voilà. Donc là, on commence effectivement à passer par un certain nombre de choses comme trouver la bonne couleur. Vous voyez que ce n'est pas très difficile. Vous faites du copier-coller depuis l'appli couleur. Continuons sur les slides. Je vous propose de les passer en plein écran. Ce sera quand même plus sympa. Donc ça, on l'a fait. C'est bon. Étape numéro 2, trouver la bonne police. Le deuxième grand point de notre recherche de la charte graphique absolue, c'est trouver la bonne police. Alors, trouver la bonne police, c'est bien, surtout qu'on a des guidelines là-dessus. Vous l'avez sans doute vu. Et notamment, l'une des questions qui revient le plus souvent lors de mes analyses que je fais d'application, c'est ouais, on a utilisé la Segway parce que franchement, c'est trop recommandé par Microsoft. Oui, certes, hein. Vous savez pourquoi on utilise plus la Segway qu'une autre. Non, c'est parce que tout simplement, on a un principe de lissage des polices dans les OS Microsoft qui s'appelle le ClearType, et que parfois, ce lissage des polices est un peu agressif sur les fontes qui sont un petit peu en petite taille, comme l'Helvetica, hein, des polices qui sont un petit peu sensibles à la petite taille. C'est pour ça que les détracteurs qui sont de l'autre côté, du côté de la pomme, me disent « l'Helvetica passe pas sur ton OS ». Je t'emmerde d'abord. Et puis deuxièmement, c'est que la Segway a été prévue pour ça, hein, pour remplacer ça. Donc, êtes-vous obligé de vous servir de la Segway? Non, vous faites ce que vous voulez. Hein, et puis, on n'irait pas imaginer que dans le branding du marque, on remplace systématiquement votre identité ou l'identité de votre client par la nôtre, quoi. Donc, il ne viendrait jamais à l'esprit de faire ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser les polices qui vous sont données. Ou si vous n'en avez pas, d'aller sur un site comme FontSquirrel. Vous connaissez FontSquirrel? Ah là, ça tilte déjà un peu plus. FontSquirrel vous propose d'acquérir des polices de type TrueType, que je recommande parce qu'il y a d'autres formats, notamment le format OTH, qui est protégé, qui est un petit peu moins souple, et du moins qui est un petit peu plus aléatoire. Donc si vous pouvez si vous pouvez télécharger les polices en TrueType, hein, en TTF, c'est quand même un petit peu mieux. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment les acquérir. Il y a une question aussi qui traîne de temps en temps sur « Ouais, mais moi, je veux développer un site web et je veux le faire correspondre à la charte que j'ai définie pour mon application que j'ai fait entièrement en Segway. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ?» Walou, vous l'avez dans le baba. Vous ne pouvez pas réutiliser une police comme ça qui appartient à Microsoft dans le cadre d'un projet public. Hein. Si vous développez avec les outils Microsoft, ces droits vous sont cédés, vous sont concédés, mais pas pour le cadre d'un développement complètement hors les murs. Donc, même la police Segway peut être achetée sur le web, y compris si vous avez des objets avec une pomme incrustée dans la coque. Il n'y a absolument aucun problème, je suis même 100% pour. Donc là, j'ai choisi la Pacifico, un, parce que je n'allais pas acheter 150 polices pour tous mes Tech Days non plus, il faut quand même pas déconner, c'est moi qui paye. Donc j'ai choisi la Pacifico que vous avez déjà vue ce matin. Donc après, va falloir l'intégrer, cette police. Et vous l'avez vu ce matin avec l'exemple de la plénière où je l'intégrais facilement, c'est pas plus dur que ça en version XAML, à savoir que je vais venir prendre mon projet ici, je vais, si je suis un petit peu propre, aller dans mon répertoire asset ici pour créer un nouveau dossier que je vais appeler Fonts. Et une fois que je suis dans Fonts, je vais aller venir ajouter un élément existant là où j'ai téléchargé ma police. Donc, je sais pas, ça doit se trouver par là, la racine certainement. Ce qui me permet de faire du teasing pour la suite. Et voilà, ma police a été intégrée, elle est embedded dans mon projet. Ce qui va me permettre de jouer maintenant avec mes différents éléments, comme par exemple mon logo ici, enfin mon logotype, dans lequel je vais dire, au niveau de tes propriétés, mon grand, tu vas utiliser la Pacifico qui est inclus dans le projet. C'est pas plus compliqué que ça. Pareil pour, alors pareil, oui ou non, en fait, pour ici le suivi des vols, ce bloc-là. Il a sauté, on va se remettre en face. Alors là, le suivi des vols, c'est un peu plus compliqué parce que si vous regardez un petit peu l'explorateur d'arborescence ici, c'est représenté sous la forme d'un bloc unique, c'est-à-dire que c'est un petit coffre fort dans lequel sont embarqués des tas de choses, c'est ce qu'on appelle un contrôle. Ce contrôle, je vais pouvoir l'ouvrir en éditant son gabarit à ce contrôle-là. Alors là, en l'occurrence, je vais dire, je vais modifier le modèle, et puis comme j'aime pas trop faire n'importe quoi quand même si je suis designer, je vais en faire une copie. Je vais travailler sur une copie, donc je vais l'appeler Style Mitch, parce que j'ai la grosse tête. Et automatiquement, vous voyez que l'arborescence a changé et qu'il me propose un peu de regarder comment c'est fichu dedans. Ça m'arrange pas trop, puisque je vois que finalement j'ai une bordure, j'ai une grille à l'intérieur, et dans cette grille, j'ai un certain nombre de choses, notamment un bouton. Un bouton qui va me servir à aller d'une section à une autre. C'est ce bouton-là que je veux attaquer, ça tombe plutôt bien. Je vais venir ici changer ma police. Donc vous voyez, j'ai été l'affecter au deuxième niveau. Et je l'ai reproduit ici. J'ai mis la police qui m'intéressait au deuxième niveau. Je remonte à mon arborescence générale et je vais aller appliquer finalement la même chose ici, puisque je vais prendre cette section-là et je vais lui dire, plutôt que d'avoir à la remodifier comme je viens de le faire, je vais encore une fois modifier le modèle, mais je vais lui appliquer une ressource que j'ai déjà éditée, le hub section Mitch. Et là, j'ai la police qui s'adapte proprement au niveau du titre. Allez, je vous le refais si vous n'aviez pas bien compris, hein, au cas où, voilà, j'ai, paf, hop, zou, ça marche bien. Donc là, vous voyez qu'une fois que vous avez défini un élément, un peu comme vous le feriez en CSS, où vous allez définir une classe, bah, vous pouvez bien entendu le reporter comme ça à d'autres éléments. Super, la couleur, la police, on commence à être pas mal, on a couvert la moitié. Continuons. Une fois qu'on a intégré la police, il est où le F5 ? Il est là, le bonhomme ? Non, il n'a pas voulu. Comment trouver ou créer un logo ? Alors là, il n'y a pas 36 solutions. Vous êtes ou vous n'êtes pas designer. Vous avez ou vous n'avez pas les outils qui coûtent juste un bras. La solution pourrait être MS Paint, effectivement. Alors là, il faut quand même une certaine dose de masochisme, hein, doublé de sadisme pour ceux qui vont suivre l'affaire. Alors là, il y a plusieurs défauts. Si je devais en consacrer deux, ça serait le fait que ça ne soit pas scalable. Vous n'allez pas pouvoir faire grossir ou diminuer vos éléments, hein, puisque vous travaillez en pixels. Alors soit vous avez la solution de toujours réduire, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus. Hein, vous arrivez, c'est trop petit. Donc c'est pas très très souple comme solution. Et puis surtout, bah, ça va vous donner un truc très très moche. À la limite, je pourrais vous conseiller Paint.net, qui est quand même un poil plus avancé que ce vieux machin. Clipart, bah pareil, hein, non, s'il vous plaît. Me faites pas ça, parce que ça non plus, c'est pas scalable, c'est tout moche, et puis en plus, c'est déjà vu, et puis ça fait vraiment dater. Non, moi, ce que j'utilise, c'est IcoMonster, personnellement. IcoMonster me permet d'accéder à tout un tas de ressources. Vous connaissiez IcoMonster ? Voilà. Alors, IcoMonster, alors là, vous voyez, c'est de la bière, c'est un sujet qui me plaît bien, mais il y en a tout un tas d'autres beaucoup plus sérieux, hein, on va les voir. Donc là aussi, je dois avoir un méchant tuste pour aller sur IcoMonster. Voilà, il est là. Qui vous permet de chercher, bah, par exemple, vous cherchez des flèches. Ah oui, il faut savoir que ça s'appelle Arrows en anglais. C'est de l'américain, je vous expliquerai. Et voilà. Et là, vous avez des flèches. L'avantage, c'est que vous pouvez télécharger dans tout un tas de formats, notamment des formats vectoriels, ce qui vous permet de travailler à haut niveau et puis voire même de les balancer à l'intérieur de votre appli, selon le type de développement que vous aurez. Donc ça vous permet quand même d'en garder une grande trace. Alors moi, je me suis servi de ça pour créer finalement mon logo. Moi, je trouvais celui-là sympa, qui correspondait bien à la fois à mon amour pour le jeu vidéo immodéré. Je trouvais que ça faisait joystick, et puis je trouvais le point sur la carte pour un truc de voyage. Ça me plaisait bien. Donc j'ai essayé de faire matcher ça un petit peu avec finalement ma typo. Voilà, ça commence à être un petit peu sympa, mon histoire. Et puis au final, j'étais content de ce que j'avais fait. Ça m'arrive assez souvent, et j'ai décidé d'insérer mon logo quelque part. Alors là, ça va être un petit peu plus cochon, je vous préviens tout de suite. Ici, il va falloir qu'on attaque, et pour ça, je vais revenir au premier élément, il va falloir qu'on essaye d'intégrer le logo dans ce bazar qui est tout en haut, là-haut, l'espèce de header. Alors si on vient un petit peu s'interroger sur ce header, voyons voir ce que ça donne. J'ai effectivement ça, une forme de grille. Dans cette grille, dans la première colonne, j'ai le bouton back. Dans la deuxième colonne, j'ai le texte, d'ailleurs, qui a sauté. D'ailleurs, je ne sais pas bien pourquoi. Ce texte-là, je peux à un moment donné l'attraper et puis le créer. Mais ce que je peux faire aussi, tant que je suis dans la grille, vous voyez, je peux créer une nouvelle colonne. Hop. Là, j'ai créé ma deuxième colonne, ce qui va me permettre, en grossissant encore un peu, pour que vous voyez bien quand même, pas non plus vous flinguer les yeux dès le premier jour, ça va vous permettre après de jouer un petit peu sur les différents éléments, notamment je vais essayer d'éloigner un petit peu celui-là. Là, j'ai créé un espace vide dans ma grille qui va me permettre d'intégrer des nouvelles choses. Dans ce trou-là, la light tout, je vais pouvoir insérer un asset, notamment ce logo que j'ai été piqué sur IcoMonster. Donc je vais ajouter un élément existant qui se trouve ici, logo solo. Et ce logo solo, je vais le balancer directement, hop, là, dans le trou, s'il veut bien y aller, quand même, ça serait sympa. Voilà, on va essayer de le mettre là. Et là, ce fut le drame. Parce que, forcément, mon logo, j'ai pas regardé, j'ai foutu ça n'importe comment, et il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Donc là, il va falloir faire plusieurs choses dessus. Un, supprimer toutes les marges qui peuvent être héritées. Donc là, c'est ce que je vais faire ici. Je vais aller sur les marges, et j'ai une petite case ici qui me permet de réinitialiser l'intégralité des marges. Bon, ça marche toujours pas, c'est toujours pas ça. Donc il va falloir que je regarde un peu comment c'est fichu. Et là, je me rends compte que au niveau de la disposition ici, je suis bien dans la colonne 1, le bouton Back occupant la colonne 0. Là, je suis bien dans la colonne 1. Mais le problème, c'est que dans le column span, il se répand ce logo sur deux colonnes. Donc, bah, ça, il va falloir le corriger. Hein. Je veux qu'il ne reste que dans la petite colonne qui lui est associée. Et là, tout de suite, à Sehr schön, c'est déjà un petit peu mieux. Ça tient dedans. Hein. Alors après, j'aurai tout un tas de règles que je pourrais appliquer. Mais vous voyez qu'en deux clics, badaboum, on a intégré le logo. Troisième étape, de fait, on commence à être vraiment pas mal. On va pouvoir passer à la suite. Intégrer son logo, insérer un background. Alors là aussi, je me suis dit, les backgrounds, c'est toujours pareil. Les gens se demandent, est-ce que j'utilise une police, une image extraite d'une banque? Et ça, on l'a tous vu, cette image pourrie avec le mec qui montre un truc sur un écran en vert. Hein, vous l'avez même peut-être utilisé, j'en suis sûr. Alors, c'est bien hein, l'image, mais un, déjà, il ne faut pas l'appliquer sur Internet, ça ne se fait pas. On l'achète, l'image, donc parfois elle coûte très très cher. Ça rend souvent les textes qui sont par-dessus difficiles à lire, il faut le savoir aussi, donc il faut parfois cartoucher un petit peu, c'est-à-dire mettre les textes dans des zones un petit peu réservées. Et puis moi, personnellement, je suis plus un adepte des dégradés classés sobres, vous l'avez vu, avec un élément de charte simple. Alors là, je me suis dit, bah, on est dans les nuages, éclatons-nous au Sénégal et créons des nuages. Alors j'ai créé un ensemble de formes hein, dans une couleur blanche que je vais poser à l'intérieur de mon layout. Voyons voir ce que ça va donner ici dans l'outil. Je reviens à ce niveau-là, je vais dézoomer un petit peu histoire que tout le monde voit le procédé. Je vais encore même dézoomer un petit peu. Et je vais dire, bah, je vais intégrer dans mon répertoire d'assets un élément existant. Vous commencez à être au courant. Je vais aller chercher mon image de nuages qui se trouve ici. Vous voyez, hein, c'est des nuages sur un fond détouré, hein, PNG classique. Et ça, bah, je vais le balancer directement dans mon layout. Voilà. Il me l'a bien balancé dans le layout, mais il ne me l'a pas mis du tout au bon endroit. Donc je vais la déplacer un petit peu, histoire de la mettre tout en haut. Vous voyez, je déplace simplement l'élément et automatiquement, il vient se repositionner. C'était pas du tout la bonne image, c'était pas le bon truc. Bon, c'est pas grave. On va le refaire. Je vois que vous êtes. Hop. Il veut absolument pas le mettre. Donc ça c'est. Donc on va faire ça différemment peut-être. Je vais appuyer sur Alt. Je l'ajoute ici. Ça marche pas non plus. Vous l'aurez compris, c'est l'effet démo. Ça a toujours marché. Non, tu veux pas m'ajouter ça. Bon, on va sélectionner peut-être comme ça. Voilà, on l'a forcé. Donc voilà, là non plus, c'est pas du tout aligné, c'est trop gros, c'est tout moche. Donc là, bah, pareil, même procédé, qu'est-ce que je fais? Je réduis toutes les marges, donc je les réinitialise. C'est déjà un peu mieux, c'est toujours pas ça hein, que je veux obtenir. Et puis après, je vais aller dans l'aspect de mon image. Et puis au lieu que ça soit en remplissage ici, je vais dire non, tu es en uniforme, pas tout fil, uniforme tout court suffira. Voilà, là, il me respecte les proportions de mon bitmap et il essaye de les adapter à mon layout. Et puis ça, je vais dire, bah, ça, je le verrai plutôt docké en bas. Et puis, si possible, pas opaque à 100%, hein, quelque chose d'un petit peu mesuré quand même, un petit peu de classe dans notre histoire. Et puis, je vois que bah, finalement, ça passe par-dessus mes autres éléments ici. C'est pas ce que je veux non plus, moi, je voudrais que ça soit derrière. Donc, je vais dire, bah, finalement, cet élément, en le triant, tu vas me le reculer d'un index. Badaboum, ça passe tout le reste derrière mon hub. Je compile tout ça, donc effectivement, hein, vous l'aurez compris, le bouton démarrer, enfin le petit logo va avoir valsé, mais ça c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Et effectivement, bah, dans mon simulateur, je vois que je commence à avoir quelque chose de vraiment sympa. Hein ? Bon, d'accord. Donc voilà, hein, finalement, on a rempli le contrat. Je vous remercie de votre enthousiasme, ça fait plaisir à voir. Vu d'ici, ça tape, hein. Donc on aurait pu donner encore un peu plus de personnalité, mais on a quand même cramé pas mal de temps au début. Donc on aurait pu effectivement, bah, facilement, vous l'avez vu, mettre une image de fond, décaler un petit peu les marges. On aurait pu changer un petit peu la police à l'intérieur des éléments de mes vols en cours. J'aurais même pu rajouter un petit avion qui, de manière programmatique, pourra s'incliner vers le haut ou vers le bas en fonction de l'avion, s'il est soit au décollage, soit à l'atterrissage, soit en croisière. Donc on aurait pu faire des choses vraiment super sympas si on avait eu 5 minutes de plus. Et on va passer à la slide de résumé. Résumons-nous un peu. Le branding, oui, c'est primordial. Pas besoin des designers. Enfin si, quand même, je vous recommande d'avoir un designer sous la main. Hein. Faut pas déconner. Aussi bon développeur que vous soyez, vous en aurez souvent besoin. Mais néanmoins, vous pouvez commencer des projets assez sympas en respectant quatre ou cinq règles qui sont assez faciles, et bah, en allant récupérer les ressources là où elles existent et où elles sont disponibles. Donc un logo, des couleurs, une police et un fond. Vous avez un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire, avec même des petits trucs additionnels ici. Et puis bien sûr, si vous êtes fan des guidelines Microsoft, comme moi, c'est design.windows.com qui sera votre point d'atterrissage obligé. Vous en voulez encore ? Donc rapido, quelques exemples d'applications que moi je trouve grandioses dans notre écosystème. My Medication, qui est bien, pourquoi ? Parce qu'elle utilise des ronds, et vous verrez que moi j'aime beaucoup le rond, notamment ici parce qu'il exploite le syndrome maman, ce que j'appelle le syndrome maman, c'est-à-dire quand on a des produits dangereux à montrer, eh ben on les met sur un fond blanc virginal comme maman, et dans des formes féminines comme maman. Ça marche très très bien, les gens comme ça ils disent « Ouh, c'est bon les médicaments !» Donc ça me plaît. C'est grandiose, non ? Ce que je viens de dire. Les applications grandioses. Celle-là, j'aime bien aussi. Là, on est dans un contrôle qui marche très très bien, puisque le contrôle est un principe de navigation. Puisque là, ce contrôle, ce camembert, je peux le faire bouger. Et je vais le mettre en face du petit taquet. Ça va me changer automatiquement la zone de data. Et automatiquement, ça va me changer tout ce qu'il y a derrière. Donc là, le contrôle, la manière de présenter l'information devient la navigation. Je trouve ça génial. Ça me plaît, mangez-en. Là aussi, Nature Space, pour son côté très très rond, très très féminin. Là aussi, j'aime bien exploiter le côté féminin qui est en moi. Là aussi, hein, les contrôles, la barre d'application, ils l'ont stocké directement dans un endroit rond, mais encore une fois, ça respecte les guidelines parce que c'est en face des pouces. Ça fonctionne très très bien. Et puis enfin, Great British Chef, que je vous recommande de télécharger parce que non seulement elle est sympa, mais en plus elle a le mérite d'être gratuite, ce qui est quand même très très bien. Vous verrez, elle est quand même assez démentielle au niveau des animations. Bien sûr, on ne peut pas partir sans vous parler de Durmag, hein, fait par nos partenaires parisiens d'Infinite Square, qui est très très bien, qui marche très très bien, et pour lequel, bah, du coup, ils ont été obligés d'inverser à cause de problèmes de charte graphique la barre de navigation et la barre d'action. Il y a des boutons qui sont en haut et de la navigation qui est en bas, parce qu'on n'a pas le droit de couper la tête des modèles. Hein, vous voyez, si Nathalie Portman, on lui avait foutu des gros carrés pour dire où je suis, ça n'aurait pas trop plu à Dior. Donc pour le coup, c'est assez sympa de voir que bah, des fois, on sait aussi adapter les guidelines pour bah, fitter avec l'image de marque. Voilà. Et enfin, My History Digest, pour le côté, c'est le contenu qui pilote un petit peu la navigation à l'intérieur de l'appli. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, je suis friand de votre avis, n'hésitez pas à dire si j'étais super lourd et très très chiant, au moins vous pourrez gagner des lots là-dessus. Et voilà, merci pour cette session, on va passer aux questions-réponses que vous aurez, je n'en doute pas, à pléthore. Merci.